Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute. Salut Thomas, bienvenue sur Le Futur, c'est maintenant. C'est un épisode matinal comme on dit, le premier que je fais à l'extérieur. D'habitude, je fais venir les invités à Nantes dans nos bureaux. Merci pour ton accueil.
Merci pour l'invitation.
Et puis merci pour le petit café, la tartine, le petit déjeuner comme on dit.
Bah, cette heure-ci, c'est normal.
Je voulais qu'on discute un petit peu de ton parcours professionnel, qui tu es, ce qui t'anime au quotidien, du groupe compétences et développement que tu diriges, et peut-être un petit message pour les auditeurs, les étudiants, les personnes en recherche d'emploi en lien avec l'éducation. Ça te va comme programme ?
Parfait.
Super. Alors Thomas, est-ce que tu peux me parler un peu de comment est-ce que tu en es arrivé ici à diriger le groupe compétences et développement ? Peut-être tu focuses sur ton parcours pro, tes études ?
Alors très rapidement, moi j'ai fait l'ESSEC et puis j'ai eu un parcours assez classique au démarrage. Alors j'étais en apprentissage à l'ESSEC entre 93 et 96, c'était assez nouveau à l'époque l'apprentissage. J'ai fait mon apprentissage dans l'assurance aux AGF qui ont été depuis rachetés par le groupe Allianz. Et je l'ai fait notamment à l'international puisque j'ai travaillé en Corée et en Turquie.
D'accord.
Après, j'ai continué, j'ai fait un DEA de finance de marché et puis j'ai continué à travailler dans la finance à Londres pour le Credit Suisse First Boston. Et puis, je suis rentré dans le conseil où j'étais au Boston Consulting Group, où j'ai travaillé pour un certain nombre de grandes entreprises et notamment dans le secteur de la banque et de l'assurance. Et puis, est arrivée la période 2000, start-up, nouvelle économie. Et là, j'ai souhaité voler de mes propres ailes. Et j'ai monté une holding d'investissement qui s'appelait Coach Invest avec une cinquantaine de dirigeants de grands groupes qui ont tous, je dirais, investi dans Coach Invest et on prenait des participations soit dans des startups, soit dans des PME sous forme de LBO. Coach Invest investissait et en plus, à chaque fois, j'essayais de faire en sorte que l'entreprise dans laquelle on investissait soit parrainée par un de mes actionnaires dirigeants de grands groupes qui investissait à titre individuel.
Il jouait le rôle de mentor, j'imagine.
Exactement.
Avec les fondateurs.
C'était l'argent intelligent, enfin, tu le sais peut-être pour ta boîte, sûrement, même si tu recherches des fonds. L'argent intelligent, je pars du principe que c'est d'abord l'argent des clients.
Exactement.
Et donc, au-delà des, je dirais, de l'investissement qu'on faisait pour aider les entreprises via Coach Invest et de l'investissement personnel dirigeant de grands groupes, ce qui était important, c'est que ces entrepreneurs puissent être accompagnés par des dirigeants qui avaient plus d'expérience, qui avaient un carnet d'adresses et qui pouvaient les aider à se développer sur le plan commercial. Voilà, c'était le modèle de Coach Invest. J'ai fait ça pendant 7 ans et puis au bout de 7 ans, on a fait ressortir les associés et moi j'ai voulu repartir dans le monde du conseil où j'ai créé mon cabinet de conseil, Thomas Legrain Conseil. Et là, j'ai travaillé pour un certain nombre de grandes entreprises ou d'organisations professionnelles. J'ai rencontré Roger Serre, qui est aujourd'hui président de Compétences et Développement. J'ai réfléchi à la stratégie du réseau et de chacune de ces écoles. Et puis, il y a 3 ans maintenant, il m'a demandé si cette stratégie, j'étais prêt à venir la mettre en œuvre.
Ouais.
Donc, je suis arrivé il y a 3 ans chez Compétences et Développement comme directeur général.
Super. Bah, écoute, c'est très complet. Merci pour ce partage. Et qu'est-ce qui t'anime du coup dans le monde de l'éducation ? Qu'est-ce qui t'a fait basculer du conseil vers ce monde de l'éducation ? Parce qu'effectivement, tu aurais pu... Bon, je pense que c'est les rencontres, tu viens de le dire. Le réseau, c'est
important. Il y a quatre choses. C'est-à-dire que quand on est, tu vois bien, quand on est entrepreneur, ben, on est libre et donc la liberté n'a pas de prix. Donc il faut effectivement qu'il y ait des compensations quand on rejoint, je dirais, une entreprise plus importante qui ne t'appartient pas. Et donc ça a été effectivement d'abord la rencontre avec Roger Serre.
Okay.
Son projet, sa vision, c'est lui qui m'a donné envie de le rejoindre et de travailler avec lui. Ça, c'est certainement la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aussi une entreprise d'une certaine taille, puisque... Même si ça reste une grosse PME, il y a 1200 collaborateurs, donc ça donne, je dirais, des moyens humains et financiers qui permettent de faire plus de choses que quand on est dans une petite boîte
un
ou, quand
super
on est,
terrain de jeu.
Voilà, ou quand on est consultant. Et puis, enfin, j'ai toujours à la fois aimé entreprendre, ce qu'on peut faire dans une grosse PME de cette taille-là, entreprendre tout en, en cherchant aussi à donner du sens, finalement, au, au métier que j'exerce et à trouver du sens dans le secteur dans lequel je suis. Et c'est vrai que ben, la formation, c'est pas vendre des carambars, et qu'il y a du sens et il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Enfin, pour moi, c'est un secteur stratégique, au même titre que l'énergie ou d'autres secteurs. Aujourd'hui, un secteur qui se consolide à vitesse grand V, avec notamment énormément de fonds d'investissement qui rachètent des groupes d'écoles. Et aujourd'hui, Compétences et Développement, c'est un des plus grands groupes d'enseignement supérieur en France, indépendant. Donc on essaye de... et on souhaite rester indépendant. Et donc on a une vision peut-être un peu différente du monde de l'éducation. Et c'est ça qui m'anime, sachant que d'un autre côté, bah, là aussi, il y a tellement de choses à faire et tellement de... il y a des modèles à proposer pour tous ces jeunes qui ne se retrouvent pas forcément aujourd'hui dans un modèle purement académique qui sélectionne uniquement par des résultats scolaires. Donc moi, ce qui m'anime, c'est l'épanouissement, l'épanouissement personnel et professionnel de ces jeunes. Et donc d'essayer de mieux les comprendre pour pouvoir, je dirais, les aider à réussir leur parcours de formation, leur parcours professionnel et de manière plus générale, leur vie. Voilà, c'est ce qui m'anime aujourd'hui.
En lien, j'imagine, avec les valeurs du groupe, l'ADN du groupe, et c'est quelque chose qui doit se ressentir quand on est étudiant dans, dans le groupe. C'est combien de marques, combien d'écoles ?
Alors, Compétences et Développement, aujourd'hui, c'est 14 marques écoles. Ouais. On est implanté dans une trentaine de villes en France. On a 15 campus en propre, et puis après, on a des écoles qui se sont développées en affiliation, en franchise. Et puis, aujourd'hui, c'est 15 000 apprenants qui sont en formation dans nos écoles chaque jour.
Ouais. Bon, pour la petite histoire, moi, je suis un alumni de l'IDRAC, l'IDRAC Nantes et Paris.
L'IDRAC Business School, qui est le vaisseau amiral des écoles du réseau Compétences et Développement en termes de taille, même si on aime toutes nos écoles de la même manière. Et chacune des 14 écoles, je dirais, a son ADN, son histoire, sa stratégie de développement, avec des modèles pédagogiques qui sont complémentaires et qui nous permettent d'offrir, je dirais, une très large gamme de formations et de former un grand nombre de métiers. Et ça, c'est fondamental puisqu'on est capable aujourd'hui, pour les jeunes qui nous rejoignent, de leur proposer vraiment des parcours de formation, des passerelles pour pouvoir obtenir des doubles diplômes ou au fur et à mesure de leurs études, je dirais, faire évoluer leur orientation dans le cadre d'un parcours qui répond à la fois à leurs compétences et à leurs appétences. Donc la richesse et la diversité de nos écoles et des métiers auxquels on forme est un des atouts du réseau Compétences et Développement, le deuxième étant... d'être école des territoires, c'est notre implantation territoriale où on est au plus proche des territoires et donc on travaille aujourd'hui avec les élus pour essayer de répondre à leurs besoins sur mesure en termes de formation et pour contribuer à leur projet de développement territorial.
Avant de revenir un peu sur Compétences et Développement, j'ai vu que tu avais lancé un club de l'audace. C'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur ta première activité d'investissement dans des TPE, PME, start-up. C'est quelque chose de...
Oui, il y a une histoire un peu commune. Enfin, d'abord, j'apprécie les valeurs et je les revendique. Pour moi, l'audace est une valeur importante. Je pars du principe que tout est possible à partir du moment où on se lance et on y croit. Et qu'aujourd'hui... message d'ailleurs à passer aux jeunes, qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas et parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et ils partent du principe que ce n'est pas possible. Donc on est quand même conditionné par notre famille, après par justement le système d'éducation et on s'auto-limite bien souvent. Donc j'essaye de faire prendre confiance à nos jeunes et de leur montrer que, bah, avec de la volonté, avec un peu de folie, tout est possible et donc il faut être audacieux aujourd'hui. Quels que soient les domaines dans lesquels on est. Et tout le monde peut être audacieux puisque tout le monde a du talent. Il y a du potentiel chez tous les jeunes. Ouais. Donc c'est pour ça que même si on n'est pas, je dirais, le meilleur de la classe sur le plan académique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des grands talents et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Alors donc l'audace, pour moi, c'était quelque chose de naturel que j'avais envie de mettre en avant. Et puis ça a été finalement une rencontre avec Christian Poncelet quand il était président du Sénat. Et alors que je réunissais dans Coach Invest donc des dirigeants de grands groupes que je mettais en relation avec des entrepreneurs
C'est en quelle année ça du coup ?
C'était dans les années 2000-2001.
Ouais.
On avait monté, j'étais vice-président des anciens de l'ESSEC à l'époque, et on avait monté avec la présidente du Sénat un événement qui s'appelle Tremplin Entreprise, qui valorisait l'innovation dans des start-up, dans des jeunes entreprises. Et le Sénat était un peu à l'époque la maison des entrepreneurs. Mmh. Et donc avec Christian Poncelet, on avait décidé de réunir dans les salons de la présidence du Sénat, une fois par mois, des dirigeants de grands groupes et des entrepreneurs, là aussi pour favoriser le lien entre deux populations qui ne se parlent pas naturellement, mmh. et parce qu'on était convaincu que ces jeunes entreprises pouvaient apporter aux grands groupes, et inversement, que les grands groupes pouvaient les aider dans leur développement, notamment leur développement commercial. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se réunissait une fois par mois, et qu'est né le Club de l'Audace. Quand Christian Poncelet a quitté la présidence du Sénat, j'ai poursuivi les activités du club. Et donc, depuis 2003, mmh. On organise tous les mois un petit déjeuner par mois avec... j'essaye de chercher des personnalités atypiques ou hors normes. Là aussi, c'est une bouffée d'oxygène. Donc, ça peut être soit des patrons de start-up, soit des dirigeants de grands groupes, soit des artistes, soit, ouais. Soit des politiques. Mais donc, voilà.
Et c'est comme ça que j'imagine que toi, même en tant qu'individu, tu progresses...
Bah exactement, enfin, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la créativité, c'est d'aller ouais. s'enrichir de l'extérieur. Il ne faut pas être génial, il faut juste ouvrir les yeux, s'intéresser, être curieux. Et donc, à force de regarder tout ce qui se passe dans le monde extérieur, c'est là qu'on puise les idées, ouais. et qu'on peut les appliquer dans notre propre secteur. Donc le Club de l'Audace, bah, c'est à la fois la possibilité d'écouter des gens intéressants qui nous font partager soit leur expérience de vie... soit qui nous donnent des clés de leur réussite, quel que soit le domaine. Et puis en même temps, c'est la possibilité de se retrouver mmh. Et donc de développer le réseau avec des gens qu'on n'a pas le temps de croiser forcément mmh. tous les jours.
Et toi, Thomas, tu es quelqu'un d'audacieux ?
J'essaye en tout cas. C'est ce qui me motive et me fait prendre du plaisir dans mon job. C'est-à-dire, j'ai toujours dit... il y a des activités qui pompent de l'énergie parce qu'on y va à reculons et on n'y prend pas beaucoup de plaisir. Puis il y en a d'autres qui procurent de l'énergie. C'est pour ça qu'on peut travailler énormément et être toujours en forme. Ou on peut travailler peu et être très fatigué. Bon, donc...
C'est bien dit, ça.
Donc c'est sûr que quand on est audacieux, c'est quelque part, on apprécie qu'on a envie d'aller là-dedans, d'aller de l'avant, pardon. L'audace est un moteur, hein. C'est un moteur pour être heureux, pour s'épanouir ouais. et pour réaliser des choses et essayer de vivre des satisfactions. Donc effectivement, il vaut mieux être audacieux que de faire du surplace, c'est sûr. Ouais,
je suis plutôt aligné avec ça. Et c'est aussi pour ça que je pense que je suis entrepreneur. Tu vois, quand j'ai fait mes études à l'IDRAC, c'était après avoir fait un IUT que j'ai abandonné pendant un an et demi, ça ne me correspondait pas. Je suis parti à la montagne faire un concours à l'UCPA pour devenir moniteur de ski. Puis ça, je me suis loupé sur une épreuve. Et puis l'IDRAC m'a ouvert la porte, hein, finalement. Et j'ai rejoint l'IDRAC Nantes comme ça. Et puis on me proposait de partir à l'étranger en Irlande, en Espagne. Et moi, je parlais pas très bien anglais à l'époque. Hein. Il y avait ces histoires de TOEIC, tu sais, l'examen où on a des points. Et c'est quelque chose d'assez valorisé, même côté entreprise. Et puis, je suis parti, du coup, en Irlande. Et puis ensuite, je suis allé en Espagne, à Santander. Et puis je suis revenu à Paris en programme Studio Broad avec l'IDRAC. Là, j'ai rencontré pas mal d'étudiants internationaux. Ça, c'était super. Et moi qui étais souvent au fond de la classe, près de la fenêtre du radiateur, pas forcément le plus concentré à l'école, j'ai fini major de promo, tu vois, sur mon bachelor, donc c'était assez extraordinaire. En fait, c'est peut-être d'avoir le programme tout en anglais, d'avoir cette richesse aussi autour de moi, c'était quelque chose qui m'avait peut-être, on va dire, réveillé. Et je me souviens d'un prof américain que j'avais ici, pas loin, dans le 17e, là, on en parlait tout à l'heure, au campus de l'IDRAC, qui nous proposait de faire une étude de marché. Alors, je lui ai posé la question en anglais, est-ce qu'on peut faire autre chose qu'une étude de marché sur un grand groupe, sur McDo, sur Coca-Cola? Est-ce qu'on peut faire ça sur notre propre projet d'entreprise? Et il nous a dit OK. Du coup, avec deux camarades de classe, on a imaginé une première boîte. C'était un service pour trouver des activités, des bons plans, du sport autour de soi, parce qu'on se disait que c'est ce qui nous réunit, en fait, c'est les passions en commun. Et on a fait du coup ce premier projet, et puis j'avais un stage de bachelor à faire, et je l'ai fait finalement du coup en stage sur ma propre boîte. On avait créé une petite boîte à l'époque. Et puis du coup, on a continué à porter le projet pendant 2 ans jusqu'à faire un parcours étudiant-entrepreneur en master. Et puis aujourd'hui, je suis devant toi avec, avec une belle boîte qui s'appelle Grimp, hein, tout le monde le sait. Et c'est vrai que les voyages, ça m'a beaucoup apporté, le culot et l'audace aussi également. C'est vrai que je t'ai rencontré sur un événement, on faisait du golf, là on est à une initiation. Et bon, bah, au culot, je suis venu vers toi sur LinkedIn, tu m'as gentiment répondu. Et puis on est là ce matin à 7h et c'est plutôt sympa. Et je pense qu'il n'y a plus vraiment de parcours atypique.
Non, mais je sais pas ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, c'est les rencontres et il faut les provoquer, hein, ça ne vient pas tout seul. Deuxièmement, comme tu l'as dit, on peut avoir un échec qui peut être relatif, mais en tout cas, on rebondit toujours. Et donc, il faut savoir s'orienter, se réorienter. Et je dirais, tout est constitutif d'un parcours. Et dans la vie, bah, y a des réussites, des échecs. Enfin, c'est comme ça qu'on progresse dans les deux cas. Et puis après, bah, l'ouverture internationale, et c'est ce qu'on essaye de faire dans toutes nos écoles, notamment à l'IDRAC. Et quand on voit... ce que tu as fait, ton parcours et l'entreprise que tu as créée, ça fait plaisir parce que ça correspond bien à la baseline de l'IDRA qui est devenir remarquable. Donc comme quoi on peut arriver après avoir fait un IUT où tu disais que ça ne te plaisait pas et puis s'épanouir à l'IDRA et devenir remarquable dans son domaine. Ça, pour moi, c'est une satisfaction de voir que finalement les valeurs auxquelles on croit et la pédagogie qu'on met en œuvre permet à des étudiants... de réussir et de voir que y a d'anciens étudiants comme toi qui ont réussi. Donc maintenant, il faut le faire passer au suivant et pour qu'ils puissent s'en inspirer, parce que je pense que dans la vie, on s'inspire aussi beaucoup des autres et donc on cherche des apprenants auxquels on puisse s'identifier, des anciens, et qui soient rôle modèle. Donc maintenant, tu es rôle modèle pour tous les jeunes de l'IDRAC.
Tu vas me faire rougir.
Tu es rôle modèle. En tout cas, tu dois transmettre ta passion.
Non, mais c'est ce
passion
que j'essaie de faire avec ce podcast. Et le message que j'essaie de faire passer aussi, c'est que pour moi, il faut jamais abandonner. On peut être tenace, hein, c'est hyper important. Obstiner, c'est peut-être une bêtise. Parfois, il faut savoir pivoter ou contourner l'obstacle. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas abandonner. Et y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est de me dire qu'il n'y a pas forcément d'échelle de la douleur. On peut être à l'école, pas forcément s'épanouir. Il faut être résilient. Puis on finit par trouver un programme qui nous correspond. Moi, ça a été le déclic, ça a été de partir à l'étranger comme toi, hein, quand tu es parti, je pense, en Corée ou en Turquie, tu me disais.
C'est ça.
Ça a dû t'apporter pas mal de choses. Et puis, ça m'a permis de créer ma propre voie comme ça et je pense que chacun a son propre chemin à découvrir et puis il y a plus de parcours atypique.
Ce que tu dis, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est à la fois effectivement, nous c'est ce qu'on dit aux jeunes, il ne faut pas abandonner, il faut toujours persévérer et effectivement le courage et le travail est toujours payant, pour autant sans jamais dépasser ses limites, donc à un moment donné il faut aussi être lucide. Et si quelque chose ne nous correspond pas, enfin, on n'est pas non plus à chercher à être dans la douleur en permanence. Donc il faut persévérer sans dépasser ses limites. Mais après, de l'autre côté, au niveau des écoles, pour aider les gens justement à persévérer, à ne jamais abandonner, il faut les mettre dans des conditions qui soient propices et dans un état d'esprit qui soit propice. Et pour moi, cet état d'esprit, c'est de toujours faire travailler les gens sur leurs points forts et de les aider à pratiquer leur passion. Donc on essaye, nous, d'attirer les jeunes sur leur passion, parce que quand vous venez et que vous faites quelque chose qui vous passionne, après le reste,
plus
ça
facile,
passe plus
ouais.
facile.
Ouais.
Et quand vous êtes là à travailler sur les forces des gens, finalement, leurs faiblesses, ils progressent de manière automatique. Donc si quelqu'un, n'aime pas les mathématiques et n'est pas bon en mathématiques, ça ne sert à rien de lui dire toute la journée qu'il n'est pas bon en mathématiques. Il vaut mieux le faire travailler sur autre chose et dans la foulée, il prendra les mathématiques, il va progresser. Voilà. Donc, et les passions, c'est pareil. On essaye, nous, dans certaines de nos écoles, de faire des groupes avec des gens qui ont des passions dans le gaming, dans le skateboard, etc. Ils viennent dans nos écoles sans trop savoir si vous voulez faire une business school, une école de communication ou autre. Ils viennent parce qu'ils sont attirés par cette passion. Et puis derrière, ils se retrouvent entre eux, passionnés, et puis finalement, ils préparent leur diplôme comme les autres.
Ouais, c'est bien plus
Mais c'est bien plus facile que de se dire, est-ce que j'ai envie de faire du marketing, de la finance.
Moi, ça me fait penser à quelque chose. Quand je suis rentré à l'IDRAC à Nantes, j'ai vu que j'avais un premier stage à faire, et c'était en plein pendant la saison de ski. Du coup, j'avais pris mon téléphone, j'ai appelé toutes les stations que je connaissais, et je suis parti faire mon stage, un premier stage de vente. Bon, c'était de la location de matos, mais j'étais à Tignes et Val d'Isère. Et du coup, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir allier comme ça l'utile et l'agréable. Et c'est vrai que ça m'a permis, je pense, du coup, de reprendre de l'énergie, comme tu disais au début de ce podcast. On est bien plus productif, motivé quand on arrive
C'est au cœur de l'ADN de nos écoles et c'est au cœur de notre pédagogie. Et pour moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a Il y a un potentiel très important encore pour nos écoles hein, qui se développent bien, mais parce que c'est un modèle alternatif et finalement pas si répandu que ça, puisque la plupart, quand on est au lycée, bah, tous les jeunes, on est là à leur donner, plus on leur donne de devoirs, plus les profs sont satisfaisants, plus on leur pointe leurs faiblesses, plus ça doit faire sérieux.
Ouais.
Et donc on est dans un système qui juge les individus uniquement sur des résultats scolaires, mm-hmm. sans s'intéresser à la personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le profil de l'individu. Mm-hmm. Et on sélectionne, bien entendu, les apprenants, mais pas uniquement sur des résultats scolaires, pas du mm-hmm. tout. Sur leur personnalité, sur leur potentiel, sur leurs valeurs, sur leur attitude, etc. Et puis après, notre métier, bah, c'est de les transformer en leur apportant des compétences et derrière, de pouvoir dire aux entreprises, voici le profil des étudiants qu'on sort, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que c'est ça, sans les enfermer forcément dans un secteur d'activité. Et je vais donner un exemple. On a une école de tourisme qui s'appelle l'IUFT. Bon, quand on fait l'IUFT, je ne dis pas c'est pour que tout le monde aille dans un office de tourisme. Pour autant, quand on dit, bah tiens, quand quelqu'un a fait l'UFT, bah c'est quelqu'un qui, pendant sa scolarité, a appris le service client, a appris l'empathie. Ouais. Et donc, ça peut intéresser toutes les entreprises, petites, grandes, du secteur public ou du secteur privé, de recruter quelqu'un qui a le sens du service client,
bien
ou
sûr,
qui a de l'empathie.
Parce qu'un recruteur, il fait hyper attention à cette attitude, ces soft skills, comme on dit, ces compétences interpersonnelles, parce qu'on peut tous se former sur Google, on peut tous faire des formations, des écoles, emmagasiner de la connaissance. Mais développer son leadership, sa résilience, sa relation client, comme tu viens de le dire, bah ça, c'est un travail tout au long de sa carrière, dès l'école, et on peut déjà travailler ça, et c'est ce qui est le plus précieux.
Exactement. Donc, nous, on travaille sur le profil des individus. Donc, ouais. On dit, si vous faites l'IFAG, on a une pédagogie qui est axée uniquement sur l'entrepreneuriat. Donc, on veut sortir de l'IFAG des jeunes qui ont un profil d'entrepreneur. Si vous faites, si on fait l'ILERI, qui est une école de relations internationales, ce sont des gens qui sortent avec une très grande ouverture sur le monde, une grande culture générale. Vous faites l'UFT, le sens du service, l'empathie, etc. Donc chacune des écoles, on essaye de bien se poser la question en disant quels sont les profils d'étudiants qui nous intéressent, pour bien les sélectionner, et derrière se dire quels sont les profils d'étudiants qu'on sort diplômés pour pouvoir, je dirais, bien renseigner les entreprises et les organisations professionnelles et que ça puisse matcher dans le placement.
Quand je vois tous les logos d'école, toutes les marques, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant. Je pense que c'est la complémentarité entre tous ces secteurs, le numérique, le management, la communication, le business development. Même d'un point de vue local, on a souvent des campus avec parfois plusieurs marques et du coup, ça doit créer
toujours,
une énorme richesse entre les étudiants. Ils doivent se partager pas mal de choses.
Nos campus, ils doivent être inclusifs et à diversité. Donc, c'est le mélange de jeunes qui viennent de milieux différents, de jeunes qui se forment à des métiers différents, de jeunes qui sont à différents niveaux d'études. On travaille énormément, nous, sur le handicap. Donc, on veut que nos campus soient inclusifs. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui viennent et qui sont atteintes d'un handicap. On cherche à ouvrir nos campus sur la ville. Il faut que ce soit des campus qui soient intergénérationnels pour faire en sorte que des jeunes puissent parler à des personnes plus âgées. Donc, en tout cas, cette diversité est source de richesse. Et donc, on l'encourage sur nos campus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, aujourd'hui, les étudiants, ils sont de plus en plus zappeurs, ou en tout cas, ils veulent vivre différentes expériences et faire différentes choses et acquérir différentes compétences. Mmh. Et donc, la diversité de nos marques écoles nous permet de faire du sur-mesure et de proposer de vrais parcours très riches à nos apprenants. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare qu'un individu il rentre après le bac dans une école et qu'il fasse 5 ans comme ça dans la même école.
C'est vrai.
Donc, il faut qu'on puisse proposer des ruptures et des parcours sur mesure. Donc, quelqu'un qui ferait, par exemple, un BTS à l'IDRAC et qu'on va accompagner, il peut, ses appétences et ses compétences, il peut se révéler une passion pour l'humanitaire, par exemple. Et là, on va lui dire, bah, écoute, après ton BTS à l'IDRAC, rentre en troisième année de bachelor à 3A. Où il peut se réveiller une passion pour l'environnement. Et là, on va lui dire, bah, tiens, ça tombe bien, on a une école d'environnement. Donc, on est vraiment dans une logique de s'intéresser à nos jeunes. Et derrière, on a, un grand nombre d'écoles qui permettent de répondre finalement à ses appétences et à ses compétences. C'est une des forces du réseau.
Et j'imagine que dans chacune de ces écoles, on peut faire des stages, de l'alternance, on a de l'accompagnement.
Ce sont toutes des écoles professionnalisantes, bien entendu. C'est-à-dire que l'insertion et le placement, ça fait partie de notre métier. Hein. On est là pour que les jeunes puissent avoir un job à la sortie et on les prépare, soit effectivement quand ils sont en formation initiale, en multipliant les stages en entreprise et ou les cas pratiques, et ou une école par exemple comme l'ICN, où tous les cours sont faits en lien avec des entreprises. Donc ce lien entre l'entreprise et l'école, il est permanent. Et pour ceux qui sont en apprentissage, bah, bien entendu, là, pour le coup, ils sont salariés d'une entreprise.
Vous avez, j'imagine, un vivier d'entreprises partenaires partout en France.
Tout à fait. Alors, notre spécificité étant l'école des territoires, c'est qu'on travaille énormément avec les TPE-PME. Donc, c'est pour nous une spécificité, un axe stratégique très important que d'être fournisseur de compétences avec les TPE-PME, plus qu'avec les plus grandes entreprises, parce qu'il y a d'autres écoles, je dirais, qui recrutent, et que pour moi, l'emploi demain, il est dans les TPE-PME, il est sur les territoires. Donc ça fait partie de notre culture, de notre ADN, et donc c'est pour nous un axe absolument majeur.
Il y a quelque chose que je vois régulièrement en échangeant avec de nombreuses écoles, c'est que bien souvent, on a des étudiants qui font un stage, même au sein même de l'école, une alternance, et parfois sont recrutés au niveau du groupe ou de l'école, c'est futurs collaborateurs, finalement. C'est des parcours que tu vois de plus en plus au niveau des différents campus, c'est des choses qui arrivent.
On le fait aussi, on a créé au niveau de la direction des ressources humaines, la Talent Académique, et on a créé des classes, on a fait une classe dédiée de commerciaux, avec l'IDRAC d'ailleurs, l'IDRAC et l'ICL, pour pouvoir proposer une alternance à nos jeunes dans cette classe, mais au sein du réseau compétences et développement. Donc on forme nos propres commerciaux, donc on leur propose cette alternance. Et ça nous permet, je dirais, d'avoir des commerciaux qui aiment leur école pendant cette période, je dirais, d'alternance. Et derrière, ça nous permet aussi d'en recruter un certain nombre. Donc, on est un observatoire, on vit avec nos jeunes toute l'année. Et donc, ça nous permet aussi de les repérer. Et comme ils ont un attachement à leur école, de leur proposer un job. Donc, pour nous, c'est une source de recrutement tout à fait intéressante.
Puis j'imagine que ce sont de belles carrières, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités, de choses à faire en interne, parfois des voyages. Moi, je me souviens, j'avais des intervenants qui venaient sur les campus quand j'étais à Santander, en Espagne. Il y avait des intervenants de l'IDRAC qui venaient nous faire cours de temps en temps. Il y a quand même de belles possibilités de carrière quand on travaille au sein d'un groupe, un groupe d'école ou même une seule école.
Alors pour nos collaborateurs, oui, je dirais la diversité des marques écoles et la diversité des postes nous permet d'avoir des évolutions de carrière qui sont tout à fait intéressantes et de diversifier les jobs. Donc ça, il y a une richesse hein, de par la diversité de nos écoles. Et puis après, quand on parlait de diversité, là aussi, on essaye nous d'avoir des parcours qui soient très riches pour nos étudiants avec de l'international, beaucoup d'expérientiel, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cours, je dirais, classiques dans les salles de cours. Donc il faut faire beaucoup de choses à l'extérieur, leur faire vivre des événements. Ce que retiennent les jeunes, c'est pas les cours, hein. Ils retiennent deux choses. Ils retiennent ce qu'on leur a fait vivre, notamment à l'extérieur, donc les expériences, et puis les personnes qu'on leur a fait rencontrer. Évidemment, donc là aussi, c'est de faire rencontrer des gens atypiques. Ouais. Nous, on avait une école comme 3A, il y avait l'abbé Pierre qui venait enseigner, une école comme l'INERI qui était dirigée par Raymond Barre. Enfin, on a eu, toutes nos écoles ont une histoire, un ADN, et cette histoire, au cœur de cette histoire, c'est souvent des personnalités qui sont venues intervenir et qui étaient aux côtés de nos apprenants. Donc ça fait partie de ce qu'on veut apporter à nos jeunes. Oui.
Il nous reste quelques minutes. Merci Thomas. Quels sont les enjeux, les projets pour 2023? J'imagine que ces deux dernières années ont été pas mal bousculées avec conjoncture économique, avec le Covid. Ça a été assez mouvementé pour tous hein, ces deux dernières années. Tu as des enjeux là pour 2023 avec tes collaborateurs, avec les écoles? Un message à faire
Bien sûr, enfin, c'est des enjeux permanents. Donc déjà, même si c'est difficile, si la période du Covid a été difficile, etc., c'est toujours dans les périodes difficiles qu'on évolue et qu'on est plus créatif et plus disruptif. Donc il y a plein de choses, ça nous a permis de faire un bond en avant dans plein de domaines, de nous remettre en question sur un certain nombre de choses, de mieux écouter la demande des apprenants, des entreprises, des territoires. Donc pour moi, il y a beaucoup de positifs, même si pour les équipes, ça a pu être une période fatigante. Maintenant, on continue, nous, tous les jours, à essayer de nous remettre en question, à nous adapter aux besoins des jeunes qui veulent avoir, des formations multiples sur un temps plus court, hein, le temps il se contracte, qui sont de plus en plus zappeurs, qui veulent des pédagogies qui soient différenciantes, ça ne les intéresse pas de rester 5 heures en cours chaque jour. Donc tout ça, c'est l'évolution de la jeunesse. Donc on peut être critique ou machin. Enfin, moi, je ne suis pas du tout critique, c'est la réalité. Donc c'est à nous de nous adapter. Et nous adapter à des clients finalement qui sont différents, puisque les parents ils vont vouloir plutôt quelque chose qui rassure, avec une business school, une école de management, une école supérieure 2. Les jeunes, ils veulent vivre des passions, donc ils sont pas du tout, ils n'ont pas le même regard. Les entreprises, elles veulent des gens qui soient formés, je dirais, à des emplois. Et puis les territoires, elles veulent qu'on les aide à participer à un projet de développement territorial. Donc les demandes sont multiples, ce qui fait la complexité, mais aussi la beauté de notre métier. Et donc on doit être en permanence à l'écoute pour satisfaire aux besoins de toutes ces populations et puis pour avoir des pédagogies qui soient de plus en plus innovantes. Et ça bouge à une vitesse grand V. Et ça se retrouve à la fois, je dirais, dans les contenus, hein, les programmes qu'on propose, qui doivent évoluer dans la manière de les enseigner, mais également aussi dans les contenants, c'est-à-dire dans nos campus, qui vont, dans les années qui viennent, pour moi, complètement changer. Et le campus, c'est 50% de la pédagogie. J'ai toujours dit, la pédagogie, c'est des contenants et des contenus. Donc beaucoup de choses vont évoluer dans les années qui viennent.
Donc ouais, il y a un mélange d'agilité, de pédagogie, d'innovation, un peu de complexité avec les 45 campus en France, si je ne me trompe pas.
On est dans 30 villes, une trentaine de villes. Ouais. Et puis on est aussi à l'international, puisqu'on a 10 bureaux, ouais. 10 bureaux à l'international. Donc, et on accueille, là aussi c'est un de nos axes stratégiques majeurs, mais on accueille à peu près 900 étudiants étrangers par an dans nos écoles et on développe beaucoup de formations. Dans les pays, directement dans les pays étrangers. Donc l'international est majeur aussi.
On va terminer sur la punchline que j'aime bien. Le futur, c'est maintenant, c'est le titre du podcast. Ça t'inspire quoi, ça,
Bah, je suis d'accord, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours de se projeter vers l'avant et d'anticiper, d'avoir une vision. Et en même temps, il faut avoir les mains dans le cambouis et être très concret au jour le jour. Donc rapprocher le futur et donc cette vision, cette ambition, cette anticipation du concret qui est le maintenant, ça me paraît être la clé de la réussite. Donc il faut à la fois effectivement être dans le moment présent tout en se projetant dans l'avenir. Donc je pense que c'est une très belle punchline ou baseline, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais ça me paraît, ouais, ça résonne.
Merci Thomas, j'ai passé un super moment. C'était rapide mais efficace, ça m'a permis de te connaître aussi un petit peu. Et puis au plaisir de te recroiser. Merci pour ton
accueil. Merci et bon vent à Grimp.
Merci,
à bientôt.
C'est gentil. Salut.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu. Alors, merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.